Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Bonjour, salut, soyez les bienvenus dans la curiosité du week-end. Et bonjour Thomas, mon bambino.
Je sais bien que tu l'adores. Bambino, bambino. Mais qu'elle a des jolis yeux.
C'est sympa, Sidonie, ça faisait tellement d'années si vous saviez qu'on ne m'avait pas appelé bambino. Mais évidemment, je sais bien que c'est parce qu'on va raconter la vie de Dalida que vous m'avez appelé comme ça, mais bon.
Oui, dans un instant, mais on découvrira aussi le monde que nous prépare Google, l'entreprise la plus riche au monde. Et ce, grâce à nos données personnelles, oui, à nous.
Et oui, vie privée, intelligence artificielle, vous verrez qu'à cause de ce géant américain, les machines commencent déjà et risquent de régenter notre vie privée. C'est assez effrayant.
Mais tout de suite, on commence plus légèrement, quoique, avec Mademoiselle Jukebox.
La curiosité est un vilain défaut.
C'est vrai que j'ai l'accent qui roule, des chansons qui roucoulent. C'est vrai, c'est vrai.
RTL.
D'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est pas compliqué, la mise en onde d'André Facetta, notre réalisateur. On a tous chanté en chœur les extraits de ces quelques tubes signés Dalida. Mademoiselle Jukebox, c'était effectivement son surnom quand elle a commencé à enchaîner les succès dans les années 60. On partage son destin, on partage le destin d'une chanteuse extrêmement populaire et souvent malheureuse avec Jeanne Thirier. Vous êtes directrice de la rédaction de Pleine Vie et David Lelello, journaliste, écrivain. Vous avez consacré 2 livres à Dalida et vous signez l'article de Pleine Vie. C'est en partenariat avec RTL. Évidemment, c'est la sortie du film de Lisa Azuelos qui nous donne à tous envie de parler de Dalida. Jeanne Thirier, vous l'avez vu ?
Oui, je l'ai vu.
Il est réussi ?
Il est réussi, c'est un biopic monumental, mais réellement monumental, c'est un personnage monumental. Et du coup, par moments, on a l'impression que Lisa Azuelos a eu un petit peu peur du monument. Donc il y a un petit côté appliqué, un petit côté scolaire, dans la façon, un manque de point de vue. Mm-hmm. Mais tout ça est complètement enlevé par l'actrice principale, Sveva Alviti, et qui donne une espèce de liberté à ce personnage. La caméra de Lisa Azuelos aussi. Et ce que j'ai réalisé, en fait, c'est que les chanteuses de cette époque-là, finalement, on les voyait toujours en plan fixe à la télé, évidemment, puisqu'à l'époque, les caméras ne bougeaient pas.
Pas beaucoup.
Et tout d'un coup, ce film donne à cette femme une incarnation, enfin, cette actrice donne à cette femme une incarnation et une liberté qui nous rappelle que c'était une énorme icône, en fait, mais en même temps, une femme extrêmement modeste et fragile.
C'est ce qu'on va découvrir grâce à vous. David Lelello, vous connaissez très bien l'histoire de Dalida pour avoir signé ces 2 livres. Je le disais en démarrant, on a tous chanté ses chansons. C'est intergénérationnel, c'est transgénérationnel. Comment ça s'explique ce succès qui continue des décennies après sa disparition ?
J'ai l'impression que Dalida touche à notre humanité profonde. Il y a la Dalida grave, solennelle, avec ce destin effectivement brisé, accidenté, et à la fois il y a la Dalida festive qui est dans nos fêtes de mariage, dans nos soirées.
Oui, et dans tous les grands moments de nos vies.
Dans tous les grands moments de nos vies. C'est la bande-son de nos vies, les chansons de Dalida. Et ce qui est formidable, c'est qu'elle touche vraiment à quelque chose de très fort en nous. Elle va nous émouvoir avec Je suis malade ou avec Le temps, elle va nous tirer les larmes. Et à la fois, tout à l'heure, vous avez vu, Laissez-moi danser, comme disait Miss Tinguette, on a qu'une envie, c'est de se lever, quoi. C'est assez unique, en fait, de ce personnage comme ça qui continue de nous toucher aussi fort.
Et puis il y a des drames, il y a de la tristesse, il y a de la noirceur comme en chacun d'entre nous d'ailleurs, une malédiction du suicide notamment omniprésente jusqu'à sa mort. D'abord on va remonter aux origines, à l'histoire de Dalida. Elle naît au Caire le 17 janvier 1933. Sous quel nom et dans quel milieu social ?
Alors, Dalida s'appelle Yolanda Gigliotti. Elle est italienne d'Égypte. En fait, ses grands-parents ont émigré en Égypte à la fin du 19e siècle. Et elle est dans un milieu quand même assez artistique, puisque son père est premier violon à l'Opéra du Caire. Donc, elle va grandir avec cette passion de la musique, son père qui répète son violon.
Elle va l'accompagner aussi à l'opéra ?
Elle va l'accompagner à l'opéra. Elle rêve de musique. Elle rêve déjà des grandes héroïnes d'opéra. Elle voit Norma à l'Opéra du Caire, toutes ces grandes héroïnes opératiques qui finalement peut-être vont l'impressionner et vont lui donner envie quelque part d'être une diva.
Elle veut chanter, Dalida ?
Alors, au départ, non, c'est le cinéma. Il ne faut pas oublier, elle est née en 1933. Les années 40, 50, c'est tout cinéma américain. Il ne faut pas oublier qu'on est en Égypte. Alors, elle rêve des Rita Hayworth, des Hedy Lamarr, les grandes héroïnes de péplum. En plus, il y a des péplums qui retracent l'histoire de l'Égypte ancienne. Donc, c'est son pays, ça lui parle beaucoup. Et elle rêve beaucoup de ses héroïnes. Gilda, par exemple, le bustier, la robe bustier, les gants, ça la fait complètement délirer. Et ça va beaucoup compter, d'ailleurs, dans son personnage. De Dalida plus tard.
Oui, alors elle rêve de cinéma, elle va tenter, on grille quelques étapes, elle va tenter sa chance en France, mais le cinéma français va la snobber, donc elle va choisir la scène, la chanson. D'abord, elle s'appelle Dalila. Ouais. Bon, Samson et Dalila, ça le fait pas, donc elle transforme son nom en Dalida. Elle va avoir une chance, une première chance. À l'Olympia, il y a un homme de radio qui va la découvrir, il s'appelle Lucien Maurice. Il prend sa carrière en main, il lui fait notamment enregistrer ce titre.
Je sais bien que tu l'adores, oh, mignon, et qu'elle a des jolis yeux, oh, mignon, mais tu es trop jeune encore, oh, mignon, pour jouer les amoureux. Et gratta, gratta sur toi.
Lucien Maurice qui utilise sa radio, en l'occurrence Europe 1, pour lancer la carrière de Dalida, ça marche ?
Ça marche très fort. Mais vous savez, vous disiez son nom Dalida. Ce qui est très intéressant, au début, c'est Dalila. Et vous savez pourquoi ça devient Dalida ? C'est Achard, Marcel Achard, qui lui dit « Non, non, pas Dalila, dit Dalida. Dalida, comme, avec un D, comme Dieu le Père. » Elle voulait créer un personnage comme ça, très, une divinité. Mmh. Et alors, ça va marcher très fort parce qu'en fait, Lucien Maurice va inventer cette technique qu'on connaît très bien, qui est le matraquage. C'est la première vedette dont la chanson Bambino, qui est une adaptation d'une chanson italienne, va être matraquée. Et il calcule qu'en fait, les femmes qui emmènent leurs enfants à l'école le matin vont tomber sur la chanson, les ouvriers qui sont sur leur chantier vont entendre la chanson, la pause à midi, ils vont entendre la chanson. Et en 15 jours, 3 semaines, c'est le délire. Tout le monde achète le disque.
Et ça cartonne. Et elle récupérera donc, ça lui vaudra donc ce surnom de Mademoiselle Jukebox. Elle l'épouse Lucien Maurice. Dalida, leur couple ne tiendra pas. Dans un premier temps, cet homme de radio va tenter de se venger. On vous raconte comment tout de suite sur RTL.
Je suis malade.
La curiosité week-end, c'est jusqu'à 15h sur RTL.
Gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino.
RTL.
Come prima tu me donnes tant de joie.
La curiosité est un vilain défaut.
Avec le temps va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est un film très attendu, Dalida, un biopic signé Lisa Azuelos avec Sveva Alviti dans le rôle titre, et ça nous a donné envie de découvrir sa vie. Nous sommes avec Jeanne Thirier, qui est la directrice de la rédaction du magazine Pleine Vie, et David Lelay-Hello, qui signe un article et qui est le biographe, l'un des biographes de Dalida. Vous publiez Dalida, cette inconnue, c'est en partenariat avec RTL. C'est un drôle de titre. Moi, j'avais l'impression que je savais tout de Dalida. Pourquoi elle nous est inconnue ?
Bah, c'est ce que révèle quand même le film, et c'est très intéressant, c'est qu'on croit qu'on la connaît bien. Et en fait, tout d'un coup, on découvre que cette femme cherchait réellement un sens à sa vie et à la vie, et qu'elle s'est passionnée pour les philosophes, qu'elle s'est mise à lire Nietzsche après son premier suicide, hein, si je ne me trompe
oui,
pas,
tout à fait.
Qu'elle s'est mise à lire Schopenhauer, qui ne sont quand même pas les philosophes les plus simples, et qu'elle s'est mise à lire Freud, et que tout d'un coup, elle cherchait réellement, est-ce qu'elle cherchait un sens à sa vie, ou est-ce qu'elle cherchait pourquoi on vit ? Tout ça la pousse aussi à une quête spirituelle. Et ce que j'ai voulu, c'est qu'on rende hommage à cette Dalila et cette belle intelligence. Et ça, on ne le connaissait pas.
David Lelay-Hello.
En fait, elle avait une frustration, comme beaucoup de chanteuses de variété, c'est qu'elle n'était pas allée à l'école. Et elle avait une soif de connaissances. Et elle avait toujours envie de lire, de comprendre, d'apprendre.
Et se rattraper, en fait.
Et se rattraper. Ouais. Et elle avait une espèce de culpabilité, de frustration. Et quand elle se suicide en 67, qu'elle renaît à la vie après 5 jours de coma, où elle est absolument détruite, elle va vivre ce qu'elle appelle ses 4 années d'hiver. Elle a besoin de retrouver le goût de vivre, et le goût de vivre, finalement, elle va le trouver par la littérature et par la philosophie. Et ce que je raconte dans le papier dans Pleine Vie, qui est assez fascinant, c'est que elle part vivre en Inde, elle tombe amoureuse d'un grand philosophe, Arnaud Desjardins. On est en l'époque Power Flower, c'est les beatniks, etc. Elle part 3 fois en Inde vivre dans un ashram, et d'ailleurs les photos sont incroyables. C'est la seule fois où on la voit avec un chignon, elle a plus les cheveux détachés. Ouais. Et elle vit dans le sable, dans la misère, etc. Elle veut quitter la chanson. Pour elle, c'est fini. Et un jour, le gourou écoute ses disques Et il entend sa voix et lui dit « Mais tu es faite pour ça, ta mission dans le monde, c'est de régaler les gens de tes chansons. Mmh. » Et donc elle retourne chanter.
On va voir que sa vie amoureuse a été tumultueuse. Donc on a cité un premier amour qui était Lucien Maurice, donc c'est cet homme de radio qui lance sa carrière, qui était producteur. Il va durer longtemps ce mariage ?
Ah bah non, c'est-à-dire qu'au bout de 3 semaines, déjà ça sent le sapin.
Ah, c'est
parce
court.
Parce qu'en fait, oui, elle se marie au mois d'avril, je crois, au mois de mai, elle part au Festival de Cannes, et là elle croise Jean Sobieski.
C'est qui Jean Sobieski ?
Oh là là, un peintre d'une beauté absolue, un aristocrate polonais, le teint basané, les yeux bleus des mers du Sud. Et là, elle vacille complètement. Faut dire que Lucien Maurice était quand même pas très gâtée par la nature. Et elle découvre cet homme. Et là, c'est la folie absolue. Elle quitte tout.
C'est elle qui part. Donc
elle part. Et Lucien Maurice, il va se venger. Il est directeur de TF1. Non, pas du tout. De Europe 1. Et il décide qu'il va foutre en l'air sa carrière.
Comment il fait ? Comment il s'y prend ?
C'est-à-dire qu'il cesse de diffuser ses disques. Et c'est une époque où on sort des 45 tours tous les 2 mois. Et il décide de plus matraquer ses chansons. On ne passe plus Dalida en radio. On est en 61. Et c'est l'époque où arrivent tous les yéyés. Arrivent les Johnny, les Sylvie, les Françoise Hardy. Et là, Dalida, elle se dit, mais je vais être balayée. Et c'est effectivement ce qui se passe. Et là, elle va se battre comme une lionne. Elle va louer l'Olympia sur ses propres deniers.
6 décembre 1961, elle loue l'Olympia. Et c'est quand même, on est dans un climat un peu particulier. Il faut l'imaginer dans sa loge, dans l'heure qui précède ce concert où on vient de comprendre ce que vous nous racontez. Elle joue très gros pour sa carrière. Dans quelle ambiance ça se passe, ces heures qui précèdent le concert ?
C'est horrible. On a un enregistrement de ça. Les gens étaient filmés à l'entrée de l'Olympia. Et il y a un journaliste qui dit « Mais pourquoi vous venez voir Dalida ?» Et les gens disent « Pour la voir chuter ».
Terrible.
Non, mais c'est terrifiant.
C'est les jeux du cirque.
Les jeux du cirque. Et dans sa loge, une énorme couronne funéraire sur laquelle est écrit « À la chanson des fins, vive Edith Piaf ».
Ça, c'est un cadeau de Lucien Maurice ? On ne sait pas.
Non, on ne sait pas d'où ça vient, mais... Et là, elle va chanter très vite une chanson sur scène ce soir-là qui s'appelle « Je me sens vivre », qui est une chanson d'une puissance incantatoire incroyable. Elle va retourner la salle.
Et depuis lors, je me sens vivre parce que je t'aime. Et depuis lors, je me sens vivre parce que je t'aime, parce que je t'aime, parce que je t'aime.
C'est une déclaration, je me sens vivre, à son amoureux peintre, Jean Sobieski.
Complètement. Et à la fois, c'est aussi, je prends ma liberté, je m'affranchis de Lucien Maurice et je reprends ma vie en main et je deviens maître de mon destin. C'est très fort, cette chanson.
Ce sera un succès, ce concert à l'Olympia.
Ça va tout changer. Et c'est à partir de cette période qu'elle va rentrer dans une période de grande dame de la chanson française, la Madone. On n'est plus dans la période chanson latine, on n'est plus dans la leçon de twist, Itsy Bitsy, petit bikini, etc. On est dans quelque chose de grande dame de la chanson.
Alors on disait tout à l'heure que la vie de Dalida a été jalonnée de drames, par exemple avec Luigi Tenco, c'est un chanteur, lui aussi, ils se sont rencontrés, ils sont tombés amoureux, ils ont la même maison de disques. Les voilà partis pour un festival, le festival de San Remo en Italie, on est en 1967. Alors c'est un événement important et un festival un peu particulier, il se déroule comment ?
Alors c'est un énorme festival en Italie, il faut dire que Luigi Tenco est un chanteur pas du tout populaire, c'est un chanteur contestataire avec des textes très politisés. Et en fait le concept c'est qu'on a le candidat qui chante sa chanson et qui est parrainé par une autre vedette beaucoup plus populaire. Et donc Luigi Tenco va chanter sa chanson, Ciao Amore Ciao, et Dalida va rechanter cette chanson derrière lui. Le problème c'est que lui fait un bide absolu, il est rentré sur scène, il a bu, il a avalé des médicaments parce qu'il avait le trac, etc. Et du coup le lien ne se fait pas du tout avec le public et il est mollement applaudi. Et Dalida arrive derrière et elle fait un succès absolument colossal.
Ciao Amore Ciao.
Alors là, on est vraiment en 67, on revit ce festival de San Remo. Luigi Tenco a chanté, c'est elle qui l'emporte. Comment va réagir
Cette chanson, il faut cette soirée, il faut comprendre que ça change toute la vie de Dalida. Les 20 prochaines années de la vie de Dalida changent à partir de ce moment-là. Il va rentrer, lui, Luigi Tenco, va rentrer à l'hôtel, va refuser d'aller à la soirée de gala. Dalida va y aller seule. Elle rentre se coucher à l'issue du gala et elle trouve Luigi Tenco étendu dans leur chambre. Il s'est suicidé.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL. RTL.
Écoute-moi.
C'était le temps des fleurs. On ignorait la peur. Le lendemain avait un goût de miel.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Dalida est partout, elle est dans nos cœurs, dans nos têtes bien sûr, elle est au cinéma, dans le magazine Pleine Vie, jeudi en partenariat avec RTL et dans une bio aussi signée David Lelay-Hello, Dalida aux éditions Télémag. Nous sommes également en compagnie de Jeanne Thiré, la directrice de la rédaction du magazine Pleine Vie. C'est encore l'une des chanteuses les plus populaires, de celles qui ont vraiment marqué le XXe siècle. On la place comment ?
Elle est deuxième
après Edith Piaf.
Après Edith Piaf, elle est éternelle.
Est-ce qu'elle avait la nationalité française, Dalida, David Lelay-Hello ?
Oui, oui. Je ne sais plus depuis quelle année, mais elle avait la nationalité française.
Mais elle chantait en combien de langues ?
Elle chantait en beaucoup de langues. Elle chantait en italien, en espagnol, en anglais, en allemand, en arabe, en japonais, en hébreu. Donc une bonne dizaine de langues. Et elle en parlait plusieurs. C'était. Elle a notamment conquis le monde arabe. C'était incroyable.
C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'elle avait du succès dans le monde entier ?
Oui, oui. Alors. Elle n'a pas fait une grande carrière anglophone, mais elle a fait une grande carrière dans les pays méditerranéens, jusqu'en Amérique du Sud, et puis beaucoup en Asie, et énormément dans le monde arabe. Elle était la deuxième Oum Kalsoum quand elle chante Salama Ya Salama. C'est un énorme succès dans tous les pays du monde arabe.
Ouais. Mais elle aurait peut-être pu faire une carrière américaine. Elle a refusé un contrat à Hollywood. J'ai lu ça en préparant l'émission.
C'est vrai. Au tout début de sa carrière, on lui a proposé un contrat de 15 ans à Hollywood qu'elle a refusé. Mais elle est allée plus tard aux États-Unis, à la période disco. Elle a même chanté à Carnegie Hall en 78. Et elle a commencé une petite carrière américaine.
Dalida, l'amoureuse aussi, c'est le personnage et une de ses facettes qui nous passionne dans la curiosité. Au début des années 70, elle rencontre un certain Richard Chanfray, drôle de personnage. Ah oui. Pour qui se fait-il passer ?
Alors Richard Chanfray, c'est un fou furieux, il se fait appeler le comte de Saint-Germain, il transforme le plomb en or.
Parce qu'il se baladait à Saint-Germain-des-Prés, c'est ça ?
Oui, ça devait être quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, dans mon livre, il y a une préface de Lynn Renault, et Lynn Renault me racontait, elle me dit, mais quand j'ai passé une soirée avec Dalida et qu'elle m'a présenté son nouveau boyfriend, le fameux Richard Chanfray, elle dit, moi je me suis dit qu'il n'aurait pas fait deux heures avec moi. Et c'est vrai que le type était improbable, il était complètement délirant. Et à la fois, il lui a donné le plus grand bonheur qu'elle a jamais connu. Ça a duré une décennie, c'est toutes les années 70, de 71 à 80. C'est la période où Dalida connaît le plus de succès. C'est Parole, c'est Gigi, c'est Il venait d'avoir 18 ans, c'est vraiment tous les tubes. Et en fait, elle va découvrir une chose qu'elle ne connaissait sans doute pas, c'est le plaisir... Physique.
Ouais.
Et je pense que ça devait être un bon coup.
Parce qu'il la suivait dans la vie, c'est quoi ce garçon ?
Il était beau déjà, il avait cette espèce de crinière blonde de playboy. Et puis il était too much, il la faisait rêver, il la faisait rêver complètement. Et c'est vrai qu'elle a beaucoup souffert parce qu'il l'a beaucoup trompée. Il lui a fait avaler des couleuvres absolument terrifiantes. Et elle a tenu des années. Et puis un jour, elle l'a foutu dehors. Il a supplié, il paraît qu'il grattait à sa porte, enfin. Il voulait revenir et puis finalement en 80 ils se séparent et en 83 elle apprend par un coup de fil qu'il s'est suicidé dans sa voiture.
Mais ça on a dit la malédiction du suicide, c'est pas une expression quoi, elle a vraiment les hommes de sa vie
trois. Luigi Tenco, Lucien Maurice et effectivement Richard Chanfray. Alors le seul qui s'est suicidé quand il était avec Dalida, c'est Luigi. Les autres, elle était déjà séparée d'eux. Mmh. Mais elle s'est évidemment posé la question de la malédiction. Vous avez un homme dans votre vie qui suicide, ok. Deux, déjà, vous commencez à douter. Mais trois, ça... Et c'est vrai que ça a été très, très douloureux pour elle. Elle s'est demandé, effectivement, si elle ne portait pas malheur.
Et cette quête, on l'a évoquée rapidement tout à l'heure, mais il faut peut-être y revenir, cette quête de spiritualité, elle a démarré avec une rencontre, avec un philosophe, c'est ça, qui s'appelait
Arnaud Desjardins.
Arnaud Desjardins.
Ouais.
Alors, il était bouddhiste.
Il était un peu tout. C'était en 69, il était hindouiste, bouddhiste, il était gourou et lui-même mené par un gourou. Mais c'est toute cette époque, de la fin des années 60, où on cherchait des nouveaux horizons. Et c'est vrai que Dalida, elle sort de son suicide, elle a besoin de s'ouvrir à une spiritualité, elle a besoin de se rapprocher de Dieu. Mais
c'est peut-être... sa quête de l'amour. Hein,
c'est
toujours.
Ça, sa quête de l'amour aussi. Et puis pas le Dieu de son enfance, parce qu'elle s'est éloignée du Dieu de son enfance. Et c'est vrai que cette spiritualité, elle va être très puissante en elle. Elle va même prendre des cours à la Sorbonne. Elle va se planquer, emballer ses cheveux sous des casquettes et, pour pas qu'on la reconnaisse, et prendre des cours de théologie. Elle est assoiffée. Elle veut comprendre. Et c'est vrai qu'il y a un hiatus entre cette image très populaire, glamour, pailleté, et à la fois cette profondeur, cette ombre. C'est quelqu'un, il faut comprendre que Dalida, elle est toujours entre l'ombre et la lumière. Elle est très solaire et à la fois très ténébreuse.
Les années 70, vous nous l'avez dit, ça, c'est une décennie heureuse, c'est aussi une décennie professionnellement qui marque son apogée. Alors on a choisi un extrait d'un duo mythique avec Alain Delon.
Encore des mots, toujours des mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
De toujours, ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi.
Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbon et chocolat.
Ça a été un tel duo mythique, Alain Delon, Dalida, qui a été adapté dans d'autres langues, c'est ça, avec d'autres artistes?
Oui, oui, ça existait en allemand, c'était assez drôle en allemand. Mais avec Delon, c'est incroyable parce qu'ils se sont connus dans les années 50 quand ils étaient inconnus tous les deux. Delon rentrait d'Indochine et ils habitaient chacun dans une chambre de bonne sur le même palier. Et ils n'avaient rien à manger et ils partageaient leurs œufs durs. C'est incroyable. Et ils se sont retrouvés célèbres quelques années plus tard.
Alors vous nous l'avez dit, elle s'est adaptée à la concurrence, elle s'est adaptée, elle a su résister face au yéyé, elle a su résister aussi au disco. Tiens, par exemple, avec ce tube.
Laissez-moi danser, chanter en liberté, tout l'été, laissez-moi danser.
Et avec ce tube et quelques autres, elle remplit la plus grande salle de Paris au tout début des années 80. Pendant combien de temps?
Pendant 3 semaines, je crois. Ouais. Mais ça, c'est grâce à l'instinct d'Orlando. Orlando est le premier à se rendre compte du pouvoir de la disco dans les boîtes gays. Il découvre ça aux États-Unis.
Donc Orlando, c'est son frère
et manager. Mmh. Et il va lui faire enregistrer Bésame Mucho, qui est une vieille chanson des années 30, à la sauce disco. Et elle est la première vraiment en France à chanter du disco, bien avant Sheila.
Le 2 mai 1987, Dalida met fin à ses jours. David Lelello, elle se prépare, elle va mentir à son entourage pour se retrouver seule.
On pense que la décision a été prise le 1er mai, hein, parce qu'elle avait un amant, un médecin, François, qui au dernier moment a annulé un énième rendez-vous. C'était un homme marié. Et le 1er mai, cette espèce de week-end silencieux où Paris est un peu ankylosé, l'angoisse a monté d'un cran et elle a décidé que c'était la goutte d'eau. Et effectivement, elle a tout préparé. Elle avait une femme qui vivait chez elle, Jacqueline, qui était son habilleuse, sa camériste. Elle s'est arrangée pour qu'elle ne soit pas là. Elle a dit à tout son entourage qu'elle allait au théâtre. En fait, elle est partie de chez elle, au volant de sa voiture. Elle a fait le tour du pâté de maison, elle est rentrée chez elle, elle a rangé la voiture et elle a fait sa petite affaire toute seule chez elle.
Comment elle s'est donné la mort?
Elle s'est donné la mort en avalant des barbituriques et en buvant du whisky. Orlando dit souvent que finalement Yolanda a mis fin à ses jours pour que Dalida vive éternellement.
À suivre dans la curiosité sur RTL, l'histoire de l'entreprise la plus riche du monde, une entreprise qui veut changer nos vies, c'est l'histoire de Google.